Vous êtes sur RTL.
RTL Soir, Julien Cellier. Bonsoir Julien.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous. Bienvenue dans RTL Soir. Il est 18h ici à Paris, 17h à Londres et à Windsor. RTL Evening, à l'heure anglaise en quelque sorte, avant le coup d'envoi du jubilé de la reine. Demain, 4 jours de festivités pour ses 70 ans de règne, 4 jours de parades, de concerts, de pique-niques au Royaume-Uni. L'ambassadrice en France, Mena Rawlings, sera notre invitée de 18h15. Elle nous réserve aussi sa première réaction après le chaos du Stade de France le week-end dernier. Chaos, encore une fois, à la une de l'actualité et donc de votre journal. Marion Calais, bonsoir.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Un chaos regretté tout à l'heure par Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, entendu par la commission des lois du Sénat. Jusqu'à il y a quelques minutes, il a réaffirmé ses chiffres et estimé que des vies avaient été sauvées. Dans ce journal aussi, 10 mois de prison ferme, la condamnation de la manifestante qui avait agressé un pompier lors du défilé du 1er mai dernier à Paris. Et puis à Roland-Garros, la suite des quarts de finale aujourd'hui avec notamment Cilic en ce moment sur les cours. Les courses à Saint-Cloud dans le Quintet. Tout à l'heure, il fallait jouer l'As, le 15, le 5, le 3 et le 11.
Dans une demi-heure, les dessous de l'actu, les dessous de la rocambolesque préparation de l'équipe de foot d'Ukraine. Barrage pour la Coupe du Monde ce soir en plein conflit. 18h40, on va défaire le monde. L'info autrement avec Cyprien Signy et la Dream Team. Bonsoir Cyprien.
Bonsoir à tous.
Le menu.
Ce soir, on a choisi de s'intéresser au Covid. Il a disparu de l'actualité et pourtant, il circule encore à bas bruit. 258 décès sur les 7 derniers jours en France. Alors, faut-il s'y résigner? On va tout vous expliquer. Au menu également, la reine pionnière d'Internet et la nouvelle ministre des Sports, championne de la com.
À 19h15, on va refaire le monde avec Éric Brunet et ses polémistes. Et puis, le temps, très régulièrement dans cette émission, avec Peggy Broche, bien entendu. Bonsoir Peggy.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Tendance pour demain?
Orageux entre le sud-ouest et les régions centrales l'après-midi.
A tout à l'heure.
RTL Soir.
Le journal Julien Cellier, Marion Calais.
Et c'est donc une explication quasiment minute par minute à laquelle vient de se livrer Gérald Darmanin devant la commission des lois du Sénat.
Audition sur les incidents du Stade de France samedi dernier lors de la finale de la Ligue des Champions. Bonsoir Alice Moreno.
Bonsoir.
Le ministre de l'Intérieur qui s'est notamment expliqué sur ce chiffre qui a tant fait parler, celui des 30 à 40 000 faux billets en circulation ce soir-là.
Oui, il maintient ce chiffre. Il détaille ce sur quoi il s'est basé, sur les ventes de billets de la Fédération Française de Football. 75 000, mais le ministre l'affirme, il y avait bien plus de monde s'il se base notamment sur l'affluence dans les transports en commun en direction du Stade de France.
Sur ces 75 000 personnes qui auraient dû se rendre au Stade de France, malheureusement, nous avons constaté 110 000 personnes dans le Stade de France et autour du Stade de France ayant emprunté les transports.
110 000 personnes comptabilisées dans les transports en commun, les bus, les taxis, des chiffres délivrés par les plateformes de conducteurs, la SNCF, la RATP, RTL a pu vérifier. Et puis il a redit qu'au préfiltrage, 50 à 70% des billets étaient faux.
Alors pour le reste, Alice, mini mea culpa et argumentation réaffirmé chez Gérald Darmanin.
Oui, alors en avant-propos, il assure que depuis qu'il est ministre, aucun autre événement sportif n'avait mobilisé autant de policiers et de gendarmes, des unités d'intervention mobile notamment, mais il admet qu'il aurait fallu mettre en place plus de police de proximité.
Qu'avons-nous mal fait? Nous avons sans doute sous-estimé le nombre de policiers, ou en tout cas l'action de la police de sécurité publique. À partir du moment, ce qui était difficilement prévisible, mais être ministre et être responsable, c'est sans doute encore plus prévoir, que l'ordre public dégénérait et qu'on aurait levé les barrages d'ordre public, ce qui faisait qu'une partie de l'espace entre le RERD et le Stade de France ont été livrés avec peu de policiers à un certain nombre de personnes qui, profitant évidemment de la confusion, se sont livrées à des violences.
Le ministre qui réaffirme aussi que les débordements ont eu lieu exclusivement côté anglais et que le pire a sans doute été évité, que des vies ont été sauvées.
Merci Alice Moreno. Gérald Darmanin qui annonce aussi deux saisines de l'IGPN, la police des polices. C'est maintenant au tour de la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, de s'expliquer. Alors c'est vrai que tout de même ces derniers jours, les critiques visaient principalement Gérald Darmanin, que l'opposition accuse accuse de mensonge. À la mi-journée, Olivier Grégoire, la porte-parole du gouvernement, a assuré qu'il avait toute la confiance du gouvernement. Olivier Grégoire qui s'est dite désolée pour ces incidents, mais en haut lieu désormais, Vincent Derosier, plus question de laisser l'affaire traîner. Hein.
Mais oui, à 10 jours des élections législatives, l'exécutif ne veut pas laisser cette polémique s'installer, d'autant que l'indignation, vous l'avez vu, dépasse largement nos frontières. On vous le révélait ce matin, Emmanuel Macron s'est mis en colère en découvrant les images du Stade de France. Et l'attitude de Gérald Darmanin et ses premières déclarations pour justifier le chaos ne l'ont pas calmé du tout. Le chef de l'État lui a donc demandé de cesser les déclarations fracassantes et surtout de reconnaître ses erreurs, ce que Gérald Darmanin vient de faire devant les sénateurs.
Il est évident que cette fête du sport a été gâchée et que nous regrettons très sincèrement les débordements, parfois inacceptables. Il est également évident que pour les fans de football, l'image négative de ce match est une blessure pour notre fierté nationale. Il est évident que les choses auraient pu être mieux organisées. Avons-nous évité le pire ? Oui. Pouvons-nous mieux organiser ? Aurions-nous pu anticiper davantage ? Sans doute.
Alors sur le fond, Alice vous l'a expliqué, Gérald Darmanin reste globalement sur sa version, mais il baisse enfin d'un ton, me confie un membre de la majorité. En haut lieu, cette audition est très scrutée et dans l'entourage d'Emmanuel Macron, on espère qu'elle permettra au minimum de faire un peu retomber la pression.
Un décryptage politique signé Vincent Derosier, en tout cas pour ne pas voir ces incidents se reproduire un vendredi avec le match des Bleus au Stade de France contre le Danemark. La RATP a annoncé dès cet après-midi un trafic quasi normal sur le RER B malgré la grève annoncée. Elle promet aussi un important plan d'information pour les voyageurs.
Et pour revenir sur ce chaos du Stade de France, dans quelques minutes, vous aurez donc la première réaction sur RTL de Mena Rowlings. C'est l'ambassadrice du Royaume-Uni en France. Elle sera notre invitée. Elle juge, elle, le comportement des fans de Liverpool exemplaire. Autre polémique maintenant que le gouvernement doit affronter. Celle de la réforme des retraites.
Une réforme indispensable, a dit Olivier Grégoire, avec recul de l'âge de départ. Autant dire que les militants réunis à Rouen pour le congrès de Force ouvrière se préparent déjà à se mobiliser.
En 95, il a fallu faire grève et manifester. Bon, je pense qu'il faudra faire grève et manifester.
Tout le monde fourbit ses armes à la veille des décisions qui vont être prises par le gouvernement, enfin essentiellement par le président.
J'ai 55 ans, mon dos il est mort, le stress au travail aujourd'hui, je veux dire, voilà, il y a une pénibilité au travail, il faut y penser.
Augmenter l'âge de départ à la retraite, c'est injuste, c'est cruel, inefficace et surtout pas nécessaire, voire même ça va aggraver le chômage aux deux extrémités de la vie active. C'est un combat qu'on va mener et qu'on compte bien gagner.
La parole de militant de Force ouvrière au micro RTL, d'Anaïs Bouissou.
Le prochain mois s'annonce tendu. Alors, tout juste un mois après, la condamnation aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Paris de cette manifestante. Souvenez-vous, elle s'en était prise à un pompier lors du défilé du 1er mai.
Condamnation à 10 mois de prison ferme. Anne Lehenaf, vous avez suivi l'audience pour RTL. 10 mois ferme, c'est une peine extrêmement lourde hein, par rapport aux faits qui lui sont reprochés.
Oui, même le procureur l'a laissé entendre. Il pensait demander une peine avec sursis, mais il a été visiblement excédé par l'absence de la prévenue qui a demandé via ses avocates un nouveau renvoi en fournissant un certificat médical. Elle était aux urgences psychiatriques hier soir pour des crises d'angoisse. Nouveau renvoi refusé. Les avocates de la prévenue quittent la salle. La street medic est donc jugée en son absence et sans avocate. Ça va très vite. Le procureur tonne. Je suis en colère de voir que votre tribunal est pris en otage. Il demande 8 mois de prison ferme et le président va au-delà. 10 mois ferme. Le couperet est aiguisé. Jérôme Andréhi, l'avocat du pompier.
Oui, à mon sens, c'est une peine qui est juste par rapport à ce qui s'est passé et à ce qui aurait pu se passer si elle avait réussi à s'emparer de cette lance à incendie.
Pour Ainhoa Pasquale, l'une des avocates de la street medic, ce jugement est au contraire aberrant.
Il est absolument disproportionné. On tend à croire qu'en réalité, le tribunal a répondu à la pression médiatique qui existait sur ce dossier depuis le placement en garde à vue de notre cliente.
La street medic va faire appel et elle sera là pour s'expliquer sur son geste.
Les précisions de Dan Lehenaf pour RTL, cette street medic hein, mobilisée pour venir en aide aux manifestants lors de ce défilé. Lui a été condamné par la justice britannique à 180 heures de travaux d'intérêt général. L'international français Kurt Zuma désormais aussi frappé d'interdiction de détenir un chat pendant 5 ans, alors qu'une vidéo l'avait montré hein, en février dernier en train de maltraiter l'un de ses animaux.
Votre journal se poursuit dans un instant sur RTL avec l'effet papillon de nos achats à nous les consommateurs européens. Ou comment ce que l'on consomme ici en France contribue parfois à détruire la forêt à l'autre bout du monde. C'est une habitante d'Amazonie qui témoigne. À tout de suite sur RTL.
RTL Soir, Julien Sellier. Julien Cellier,
RTL Soir.
18h10, la suite de votre journal dans RTL Soir avec un témoignage à présent. Écoutez bien ce témoignage, c'est aussi un message d'alerte, celui d'une habitante de la forêt amazonienne.
Qui a vu petit à petit les arbres disparaître et céder la place à des champs pour le bétail ou la culture du soja aujourd'hui. Virginie Garin, invitée à Paris par une ONG, elle est venue raconter les ravages de la déforestation et rappeler que nous aussi, de notre côté de l'océan, pouvons jouer un rôle.
Oui, elle s'appelle Nedjinia et quand elle était petite, elle habitait dans la forêt. Sa famille vivait de la récolte du latex dans le bassin du fleuve Amazonie. Aujourd'hui, elle a 63 ans et sa forêt a pratiquement disparu.
Il y a beaucoup de déforestation, des incendies avec les fumées qui nous empoisonnent. À la place, il y a des cultures immenses de soja.
Et une partie de ce soja, justement, il est importé en France pour nourrir nos poulets et nos cochons. Pour faire un kilo de poulet, il faut 700 grammes de soja.
Je suis venue dire aux Français, quand ils vont faire leurs courses, de demander l'origine de ce qu'ils mangent. Si ça contribue à couper la forêt, alors il ne faut pas acheter.
Alors, Bruxelles est en train de mettre en place des règles pour obliger les entreprises à ne plus acheter de produits qui créent de la déforestation. Un label pour le mettre sur les étiquettes, c'est important, a été envisagé en France. Malheureusement, on l'attend toujours.
Voilà, pour que le consommateur soit aussi informé. Explication signée Virginie Garin.
Allez, on part à Roland-Garros. Suite et fin aujourd'hui de la bataille, les derniers tickets pour les demi-finales.
RTL Roland-Garros 2022.
Ces matchs que l'on continue de suivre avec vous, notamment Sébastien Rouxel, toutes les 30 minutes en ce moment sur le court central, le Croate Cilic opposé au Russe Rublev.
Et oui, l'expérience de Marin Cilic, 33 ans, de retour au premier plan après sa victoire sur le numéro 2 mondial, Daniil Medvedev, en 8e face à la jeunesse du 7e mondial, Rublev, qui rêve à 24 ans d'intégrer pour la première fois le dernier carré d'un tournoi majeur. Et c'est le plus jeune pour le moment qui fait la course en tête. Le Russe a remporté logiquement la première manche 7-5 en étant beaucoup plus solide que son adversaire, parfois un peu brouillon sur sa mise en jeu. Mais attention, le Croate n'a pas dit son dernier mot. Il a fait le break dès le début de ce deuxième set. Il commet de moins en moins de fautes directes, multiplie les coups gagnants, 35 depuis le début de cette partie, et mène donc 5 jeux à 2 dans cette deuxième manche après 1h34 de jeu. Service à suivre pour le Russe.
Ouais, Sébastien Rouxel à Roland-Garros pour RTL. Chez les dames, qualification de la numéro 1 mondiale, Iga Swiatek qui affrontera la Russe Kazatkina en demi ce soir. Choc nordique entre le Norvégien Rude et le Danois Rune, 20h45. La patronne du tournoi, Amélie Mauresmo, a d'ailleurs reconnu ce matin que l'horaire des matchs du soir peut poser question.
À peine.
Après les critiques de Rafael Nadal et de Novak Djokovic, le match qui a terminé à 1h du matin la nuit dernière.
On a peu dormi.
Amélie Mauresmo qui promet de faire le bilan du tournoi. Personnellement, je n'ai pas réussi à aller jusqu'au bout.
Ah bon ?
Eh ouais, malheureusement. Et puis, entre sport et insolite, ce record du monde établi par un Français aujourd'hui, record du saut à l'élastique. François-Marie Dibon s'est jeté dans le vide 765 fois en 24 heures depuis un pont en Écosse. Et le mieux, vous savez quoi ? C'est qu'il avait le vertige il y a encore quelques années.
Il est fou !
Génial cette
incroyable histoire.
765 fois
record improbable. Ouais, voilà.
C'est totalement improbable. Mais c'était à noter. Merci beaucoup Marion, à tout à l'heure.
Vous avez déjà fait du saut à l'élastique, vous, Baggy ?
Oui, oui, quand j'étais petite, mais vous savez, l'élastique qu'on met entre les jambes.
Ah oui !
C'est
pas le même.
On est d'accord.
Bon, allez,
Je reste sur Terre.
Du temps pour demain.
Le temps demain sera plutôt orageux dans le sud. Alors, les orages vont démarrer cette nuit dans le sud-ouest. Attention, il pourrait être localement fort avec de la grêle. Et demain matin, on va retrouver quelques averses liées aux orages de la nuit sur la moitié sud, sauf près de la Méditerranée qui sera à l'écart avec de belles éclaircies. Sur la moitié nord, un ciel légèrement voilé, plus nuageux entre la Bretagne et la Normandie. Et dans l'après-midi, de belles éclaircies au nord de la Loire, du soleil dans le sud-est, mais reprise des averses orageuses entre le sud-ouest et les régions centrales, avec de la grêle localement, le tout sous des températures en hausse, globalement comprises entre 21 et 28 degrés au nord, 25 à 32 au sud.
Merci Peggy. Dans un instant, RTL va prendre l'accent british. Dans quelques heures, début du jubilé de la reine d'Angleterre, 4 jours de fête au Royaume-Uni. L'ambassadrice en France, Mena Rawlings, est notre invitée. Elle va aussi réagir, bien entendu, au chaos du Stade de France lors du match Madrid-Liverpool. À tout de suite.
RTL Soir, Julien Cellier. Julien Cellier,
l'invité d'RTL Soir.
Bonne fin de journée, RTL Soir donc avec vous, à vos côtés, et RTL Soir à l'heure anglaise en quelque sorte en ce moment, parce que le monde entier regarde avec avec envie, avec gourmandise, il faut le dire, le programme du jubilé de la reine d'Angleterre. 70 ans de règne, 4 jours de festivités dès demain matin et avant ce coup d'envoi tant attendu. Eh bien, notre invitée ce soir est l'ambassadrice du Royaume-Uni en France. Bonsoir Mena Rawlings.
Bonsoir Julien.
Merci d'être avec nous.
Ça, c'est un grand plaisir.
Demain et après-demain, ce seront des jours fériés même outre-Manche. Et on imagine que des Anglais vont même planter leur tente à Londres ce soir pour être les mieux placés pour la parade militaire demain. On observe tout ça avec étonnement, avec envie. C'est un vrai moment de fête, un vrai moment de communion nationale.
Oui, absolument. Ce week-end, c'est toutes les célébrations pour le jubilé de platine de notre reine. 70 ans sur le trône britannique, c'est incroyable, je pense. Mmh. C'est la première fois que nous avons vu une reine de cette duration. Il va y avoir beaucoup de célébrations en Angleterre, à Londres, mais aussi autour du Royaume-Uni et évidemment autour du monde, je pense, parce qu'elle est un personnage international en fait, y compris ici en France.
Effectivement, parce que y compris ici en France, les médias suivent avec énormément d'attention ce jubilé à venir.
Oui,
il va y avoir des événements qu'on va diffuser en direct, nous ici à RTL. Comment vous expliquez justement que cette popularité qui dépasse les frontières?
Pour moi, c'est en raison du fait qu'elle représente cette idée de longévité, de stabilité dans un monde avec beaucoup de bouleversements pendant son règne. Je pense aussi qu'elle a voyagé beaucoup pendant son règne, y compris ici en France. Elle a fait 5 visites d'État. Elle parle la langue, elle parle français très bien. Et je pense qu'elle a montré beaucoup d'intérêt dans le monde pendant son règne. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a cette réaction très chaleureuse envers la reine sur cette occasion.
On a parfois du mal à comprendre, nous ici en France, l'attachement si fort, si fusionnel presque des Britanniques à leur reine. Comment vous pourriez l'expliquer à nos auditeurs?
Oui, je pense qu'elle est très chaleureuse elle-même. Elle a vu beaucoup de soucis pendant sa vie, personnellement, évidemment. La population en général voit une connexion avec elle qui est extraordinaire. Moi-même, par exemple, elle est la reine pendant ma vie. Donc j'ai vu plusieurs premiers ministres britanniques, mais
une seule reine. Et vous l'avez rencontrée à plusieurs reprises, d'ailleurs.
Oui, c'est vrai. Donc, quand j'étais jeune, je l'ai vue pour la première fois. J'étais à Brighton avec mon école. Et j'ai vu la main gantée de la reine, parce qu'elle était là-bas aussi, par hasard. Plus tard dans ma vie, en raison de ma carrière, je l'ai rencontrée, je crois, 3 fois, quelque chose comme ça. Alors,
vous parlez de la main gantée de la reine. C'est vrai que demain, c'est la parade militaire, et tout le monde espère apercevoir la reine, peut-être à bord de son Range Rover. Est-ce qu'elle va participer ou non à la parade? Est-ce que vous avez des petites indiscrétions? Est-ce que ce sera le cas, ou est-ce qu'il faudra attendre de la voir au balcon lors de la parade aérienne?
Je pense qu'elle va participer dans le défilé de l'anniversaire, le Trooping the Colour, comme on dit en anglais. Je pense qu'elle va utiliser un carrosse qui est habituel, en fait, dans les années plus récentes. Et je peux imaginer aussi que certainement elle va être sur le balcon de Buckingham Palace avec sa famille.
Alors, le Royaume s'est beaucoup inquiété pour la santé de la reine ces dernières semaines. Charles l'avait remplacée lors du discours du trône. Et puis, elle a effectué ces derniers jours plusieurs sorties, toutes pimpantes, pour supporter ses chevaux, pour inaugurer une ligne de métro à son nom. Vous êtes rassurée? Elle est en forme, la reine?
Oui, je suis rassurée, certainement. Oui, je pense qu'elle est très, très, très dure. C'est très important d'admettre qu'elle a l'âge de 96 ans. Donc, il est inévitable qu'il y ait des changements dans sa vie. Mais je pense qu'elle est en bonne santé. Oui.
Et on découvre qu'elle travaille toujours, qu'elle lit les notes des ministères, qu'elle reçoit des courriers... sur l'actualité des pays du Commonwealth. Oui. Est-ce que vous pouvez d'ailleurs expliquer à nos auditeurs quel est son rôle ? Parce qu'on dit qu'elle travaille, qu'elle est très au courant de l'actualité, et en même temps, elle n'a pas le droit de donner son avis politique. Ici, ça paraît un peu déconcertant.
Oui, c'est la Constitution britannique. C'est très confusant, je pense. Ce n'est pas écrit, évidemment. Non, mais pour moi, son rôle est pour la plupart un rôle cérémoniel, représentatif de notre pays. Mais c'est vrai qu'elle a beaucoup d'intérêt dans l'actualité, dans les affaires du monde. Quand je l'ai rencontrée, j'ai trouvé qu'elle suit très étroitement les événements du monde. Et il y a évidemment des bonnes conversations tout le temps entre elle et notre premier ministre. Mais en général, elle n'a pas beaucoup de rôle dans la gestion de notre pays.
Madame l'ambassadrice, je voudrais aussi ce soir évoquer un autre sujet avec vous parce qu'il est à la une de l'actualité chez vous et chez nous. C'est le chaos de la finale de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et Liverpool, qui est donc un club anglais. Dès samedi soir, on a entendu le gouvernement français pointer du doigt le comportement des supporters des Reds. Le gouvernement britannique se dit déçu. Est-ce que vous partagez aussi ce sentiment du Premier ministre ?
Oui. Certainement. Donc, pour moi, les événements de samedi soir étaient très tristes, en fait. Et c'était difficile, franchement, de voir ce qui se passait ce soir ici à Paris. Mais pour moi, la chose la plus importante en ce moment, c'est de se poursuivre l'enquête de l'UEFA, mais aussi des autorités françaises sur ce qui s'est passé afin d'assurer que nous pouvons éviter un répète de ces événements dans l'avenir.
Et est-ce que, comme le président du club de Liverpool, qui a assez peu goûté les propos de notre ministre, Gérald Darmanin, est-ce que comme le maire de la métropole qui était notre invité hier dans l'émission, vous réclamez des excuses au gouvernement ? Est-ce que ce n'était pas un peu trop facile de blâmer les fans de Liverpool ?
Donc, j'ai regardé évidemment la conférence de presse avec le ministre M. Darmanin et aussi la ministre du Sport. Aussi, hier soir, j'ai vu que la ministre du Sport a fait un tweet, en fait, en anglais, où elle a dit qu'elle regrette que ce n'était pas possible pour beaucoup de fans de Liverpool d'entrer dans le stade. Donc, pour moi, il y a une bonne volonté maintenant, comme j'ai dit déjà, de se poursuivre les enquêtes afin d'établir la vérité des événements de ce soir. Mais pour moi, c'est très important de continuer dans un esprit de bonne coopération entre nous.
Et établir la vérité, c'est ce que vous nous dites avec cette enquête indépendante. C'est vrai que le ministre Gérald Darmanin, ce soir, est entendu par le Sénat en France. Oui. Il a évoqué ce chiffre de 30 à 40 000 faux billets qui fait beaucoup parler, je crois.
Oui, oui.
Chez vous, ça vous paraît crédible parce que la presse mondiale s'interroge.
Oui, franchement, je ne sais pas. Pour moi, c'est une question pour l'UEFA d'établir si ces chiffres sont corrects. Parce que si c'est comme ça, évidemment, il y a eu, comme le ministre Mr. Darmanin a dit, il y a eu une grande fraude. Donc, je pense qu'il est très important d'établir, comme j'ai dit, les faits. Mais peut-être que je peux dire aussi que j'ai beaucoup de respect pour les supporters de Liverpool parce que je pense que il y a eu beaucoup de pression sur les fans. Et en général, donc mon équipe, l'ambassade britannique, qui a soutenu beaucoup de personnes qui ont perdu leur passeport, etc. Nous avons vu un bon comportement de nos fans. Et pour moi, c'est très important de reconnaître que c'était difficile pour eux, mais son comportement était exemplaire en général.
Merci Mina Rawlings, ambassadrice du Royaume-Uni en France, d'avoir été ce soir notre invitée sur RTL, à la veille donc du début du jubilé de platine de la reine.
Merci d'avoir été avec nous. J'ai hâte de voir tous les événements et merci pour l'opportunité de parler avec vous ce soir.
On a hâte également, merci.
Merci.
Cette interview est à retrouver sur l'appli RTL.
Et RTL Soir va revenir dans un instant avec tout autre chose, vos dessous de l'actu, les dessous de la très 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 particulière préparation de l'équipe d'Ukraine de football. En pleine guerre, elle va jouer ce soir un barrage pour une place en Coupe du Monde. Et puis laissez-vous tenter dernière avec le roman d'un certain Jérôme Deverdière, l'un des complices de Laurent Gérard. Tout de suite sur RTL.
RTL Soir
avec Julien Cellier.
RTL RTL Soir vous accompagne comme chaque jour. Il est 18h30.
RTL Soir avec Julien Cellier.
Et Marion Calais vous rappelle les trois grandes actus à retenir ce soir.
Les choses auraient pu être mieux organisées. La concession de Gérald Darmanin qui estime à nouveau que le pire a été évité au Stade de France lors de la finale de la Ligue des Champions samedi dernier. Que c'est côté britannique qu'il y a eu des problèmes avec 50 à 70% de faux billets. Le ministre de l'Intérieur qui reconnaît aussi une utilisation disproportionnée de gaz lacrymogène. 10 mois de prison ferme, la condamnation de la manifestante qui avait agressé un pompier le 1er mai dernier. Condamnation prononcée aujourd'hui. Et puis à Roland-Garros, le duel entre le Croate Cilic et le Russe Rublev en quart de finale. Un set partout pour l'instant entre les deux hommes avant le prochain quart ce soir à 20h45 qui opposera le Norvégien Rudd au Danois Rune.
Vous avez une maîtrise des langues scandinaves, Marion. Mais alors, vraiment, je m'entraîne. Absolument délicieuse. Le temps pour demain, Peggy, ça va gronder, c'est ça?
Et ça va gronder dès ce soir dans le sud-ouest. Ça peut gronder fort avec de la grêle. Demain, du coup, on aura quelques averses liées aux orages de la nuit sur la moitié sud, sauf près de la Méditerranée où il y aura déjà des éclaircies. Sur la moitié nord, un ciel légèrement voilé. Et dans l'après-midi, les éclaircies vont résister entre la Bretagne, l'Île-de-France, le Grand Est et dans le sud-est. Et ailleurs, ce sera un temps orageux avec de la grêle, le tout sous des températures élevées dans le sud de 25 à 32 degrés et de 21 à 28 au nord.
Merci Peggy.
RTL Soir,
les dessous de l'actu.
Et les dessous ce soir de la rocambolesque préparation de l'équipe de football d'Ukraine. Elle joue son avenir aujourd'hui. Premier barrage pour se qualifier pour le mondial au Qatar. C'est ce soir en Écosse. Alors, un match qui était prévu évidemment fin mars, mais qui a été reporté en raison de la guerre. Bonsoir Nicolas Jean.
Bonsoir.
Est-ce que cette équipe, malgré le terrible contexte, est prête?
C'est dur à dire parce que la sélection ukrainienne n'a plus joué depuis 7 mois et c'est l'UEFA, grâce à son président slovène, Alexander Seferin, qui a donné un coup de main. La Fédération nationale slovène a en effet mis à disposition son centre d'entraînement situé à Brdo, au nord de la capitale, Ljubljana. Début mai, le quart de la sélection ukrainienne a quitté Kiev, a parcouru 1600 km vers l'ouest, avec à son bord les joueurs qui évoluent dans le championnat local. Ils ont été rejoints ensuite par les internationaux des autres clubs en Europe. 3 rencontres amicales disputées, mais sur un rythme peu élevé. 16 joueurs sans le moindre match à haute intensité depuis 3 mois. Sans parler du contexte émotionnel, l'Ukraine part dans l'inconnu.
Est-ce que le pays suit ses joueurs? Est-ce que l'Ukraine a quand même un œil sur la situation de sa sélection, malgré tout ce qui se passe dans le pays?
Il y a eu débat parce que la majorité des joueurs a été exemptée de la mobilisation générale décrétée le 24 février et ça a été diversement apprécié dans l'opinion. Je peux simplement dire aux Ukrainiens que nous ferons tout notre possible, promet Alexander Zinchenko, le défenseur et milieu de Manchester City, dans un entretien à la BBC.
This game, especially for me, it's
ce
one
match,
of the most
surtout pour moi, est l'un des plus important de ma carrière et de ma vie. Nous allons tout donner. Ce n'est pas la peine de parler de motivation, mais c'est vrai que la condition physique, pour certains, n'est pas idéale. Il n'y a pas d'excuses. On doit faire le boulot comme on peut et pas du mieux qu'on peut.
Le sélectionneur Petrakov, 64 ans, voulait s'engager dans l'armée. C'est le président Zelensky qui l'a convaincu de ne pas le faire. Et bien, il connaît sa mission, obtenir une qualification hautement symbolique pour l'Ukraine.
Symbolique, c'est effectivement le terme adéquat, la singulière préparation de l'équipe d'Ukraine de football avec vous ce soir, Nicolas Georgerot. Merci, le match c'est donc ce soir, Écosse-Ukraine.
RTL Soir,
les dessous de l'actu.
18h34.
Laissez-vous tenter, dernière.
Allez, tout autre chose maintenant, c'est donc Laissez-vous tenter, dernière, les bons conseils de la bande de LVT. Bernard Lehu est avec nous ce soir. Bonsoir Bernard.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Alors, vous avez lu La Robe. C'est le premier roman de Jérôme de Verdière. On le connaît bien dans cette maison parce que c'est l'un des co-auteurs de Laurent Gérard chaque matin sur RTL.
Oui, et j'ai beaucoup ri, ça ne va pas vous étonner, mais pas seulement. La Robe nous fait réfléchir, l'air de rien, sur les bouleversements des rapports entre les femmes et les hommes et un monde en pleine évolution, parfois jusqu'au chaos. Jérôme de Verdière raconte comment lui est venue l'idée de son livre.
En fait, il y a 4-5 ans, quand le mouvement MeToo, mais plus généralement le néo-féminisme, est arrivé vraiment dans le débat public, à la maison, chez moi, de temps en temps, c'est un peu droit de réponse, mais sans les caméras, heureusement. Et donc, j'avais une conversation un peu rythmée avec ma femme, et à un moment donné, à la fin de la discussion, pour alléger un peu le propos, je lui fais une blague, quoi. Je lui dis, je te préviens, moi, je veux bien tout faire pour les femmes, pour le féminisme, etc. Mais on ne me fera jamais porter de robe. Et en fait, je me suis dit, tiens, c'est peut-être le départ d'une histoire. Qu'est-ce qui se passerait si on m'obligeait à porter une robe ?
Alors, que va donc imaginer Jérôme de Verdière ?
Eh bien, Jean-Pierre, son personnage, rentre chez lui, lessivé, comme il dit. Tout le fatigue, son boulot, les autres, sa femme, Isabelle, un peu aussi. C'est son anniversaire, ça le fatigue également. Surtout, surtout quand il découvre qu'Isabelle lui offre une robe qu'elle veut à tout prix qu'il porte ce soir-là. Jérôme de Verdière nous embarque dans un crescendo vers l'absurde, à coups de rebondissements, de dialogues impitoyablement caustiques. Plus Isabelle s'entête à faire porter une robe à son mari, plus celui-ci en rajoute dans la beaufitude. Sous l'œil moqueur de Jérôme de Verdière, eh bien tout le monde en prend pour son grade.
Moi, je voulais me moquer aussi bien des réactionnaires obsessionnels, parce qu'ils finissent par devenir fous, hein, mais parfois on les comprend. Mais que je voulais aussi me moquer du progressisme, où de temps en temps, il n'y a plus du tout de bon sens. C'est-à-dire qu'on assiste à des trucs, mais des trucs réels. Par exemple, récemment, là, vous savez que le pronom « yel », c'est imposé. Alors, pas chez les Français, personne ne l'utilise, mais dans, en tout cas, dans cette sphère-là...
Qui est la contraction de « il » et de « elle », donc du masculin et du
voilà,
féminin.
Parce qu'il faut plus genrer les choses. Donc, « il ». Et j'ai vu, mais c'est très sérieux, qu'il y a un groupe de LGBTQ, XYZ, là, qui a dit « oui, mais c'est pas logique. Pourquoi le « i » de « il » est avant le « e » de « elle » ? Il faut changer, il faut inverser. Mais là, il y a les trans... qui sont arrivés en disant « Oui, mais et nous, alors pourquoi c'est il et elle ?» En fait, c'est un monde de fous. C'est-à-dire que la folie des uns engendre la folie des autres.
Alors, jusqu'où ira cette folie ? Eh bien, lisez vite « La robe », le premier roman de Jérôme de Verdière. C'est publié au Cherche Midi.
Allez, courez chez votre libraire. C'était le bon conseil de Bernard Lehu ce soir dans « Laissez-vous tenter dernière ». Merci beaucoup, cher Bernard.
« Laissez-vous tenter dernière ».
Allez, dans un instant, on va défaire le monde dans RTL Soir. On va aussi défaire le Covid avec Cyprien Sini, oui. Laurent Tessier, Céline Landreau. Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Alors, on a l'impression que le Covid a complètement disparu. Bon, ça remonte quand même assez fort chez nos voisins portugais. Ça commence même à remonter très, 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 très légèrement en France. Et dans ce contexte, eh bien, peut-être que des dizaines d'hospitalisations pourraient être évitées. Mmh. On va tout vous expliquer juste après ça.
On défait le monde, c'est dans un instant sur RTL.